Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes un petit peu en retard, mais ne vous en prenez pas à nous, mais à au responsable qui est là-bas, en l'occurrence notre ami Roland Lehoucq, qui est un petit peu tiré sur son temps de parole. Ça, c'est de la science-fiction, ton truc, là. Ah, ça, c'est de la science-fiction. Voilà l'exclamation qu'on entend souvent à propos de toute chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Cependant, au risque de contredire celui que je soupçonne d'avoir rédigé les tenants et aboutissants de cette table ronde, science-fiction ne rime pas seulement dans l'inconscient populaire avec divagation. Science-fiction peut rimer aussi avec d'autres sens, comme par exemple soit une nuance péjorative du genre « soyons sérieux, nous sommes entre adultes », soit une nuance plus positive « ah, si ça pouvait être vrai ». Mais il est vrai que la science-fiction a trop souvent péché par approximation, par négligence et parfois même, disons-le, par je-m'en-foutisme. Et l'exigence stricte de réalisme et de spécificité dont il est question ici n'a pas toujours été respectée. Bref, la science-fiction a souvent donné des bâtons pour se faire battre, mais qu'elle soit positive ou négative, il n'en est pas moins vrai que cette exclamation marque une rupture avec le train-train de la vie collective ordinaire. Et c'est cela qui va nous intéresser ici. Ah, ça c'est la science-fiction. C'est cela dont nous allons discuter avec Xavier Moméjean, romancier, éditeur, esprit aiguisé, friand du côté inattendu des choses, comme le prouve son dernier ouvrage « Relations amusées d'un séjour à Paris du jeune Franz Kafka, relations mi-réelles, mi-reconstituées ». L'auteur de la formule que je citais à l'instant et que je dénonce maintenant, à savoir Hugo Bellagamba, que l'on ne présente plus, universitaire, historien et juriste, ainsi que nouvelliste et romancier, je ne sais pas ce qu'il fait, il doit dormir très peu de temps toutes les nuits, sa dernière parution étant L'origine des victoires chez ActuSF Helios, et il est accessoirement d'ailleurs, entre deux romans et entre deux cours à l'université, délégué artistique de cette brillante manifestation. Sylvie Lainé, qui, outre ses talents de nouvelliste plusieurs fois récompensés, y compris par le tout dernier prix Rony Aîné, enseigne les sciences de l'information, deux raisons qui la rendent sensible à et aux réactions à cette exclamation « Ah, ça, c'est la science-fiction ». Enfin, Vincent Caillebeau, architecte, fondateur du concept archibiotique, qui était un néologisme qui mélange trois concepts, architecture, biotechnologie et technologie de l'information et de la communication, et dont nous allons voir tout de suite quelques exemples de réalisation avant d'entamer notre débat sur ce thème merveilleux. Ah, ça, c'est de la science-fiction. Vous allez voir, c'en est.
Donc, bonjour à tous. Donc, je vais simplement, 5 minutes, vous expliquer un peu ma démarche. Donc voilà un des projets que je développe depuis plusieurs années avec l'université de Berkeley aux États-Unis. Et donc quand vous voyez cette image, vous devez vous dire « Ah, ça, c'est de la science-fiction ». Ce projet a fait l'affiche des Utopiales en 2013 et explique le concept de savoir ce qu'on va faire avec le 7e continent. Le 7e continent, on n'est pas sur Mars, on est bien sur la Terre. C'est cet océan de déchets plastiques qui est équivalent à 10 fois la superficie de la France et qui traîne au milieu des vortex des océans. Aujourd'hui, on se demande ce qu'on va faire de ces déchets plastiques et avec les scientifiques, on essaye de trouver des technologies pour transformer ces déchets en biocarburants, pour inventer la mobilité propre du futur, une mobilité qui n'utiliserait aucune énergie fossile, mais bien simplement des énergies recyclées et recyclables en boucle fermée. Ce type de technologie, en fait, utilise des panneaux d'algues vertes qu'aujourd'hui, on essaye de mettre en place, notamment sur la tour Montparnasse à Paris, pour rendre cette tour autonome en énergie. Un autre exemple de ce qu'on pourrait faire avec les déchets plastiques est ce projet de ville sous-marine qui, en fait, propose d'envoyer des robots flottants dans les océans qui viendraient récupérer ces déchets plastiques en suspension et qui permettraient d'usiner, d'imprimer en 3D directement, grâce à ces déchets plastiques, les matériaux composites biosourcés pour construire des villes sous-marines qui pourraient s'enfoncer jusqu'à 1 km au fond des océans. À savoir que nous, les terriens, un jour, nous pourrions devenir des mériens, étant donné que notre planète bleue est constituée à 70% d'océans. Ici, nous travaillons également avec des scientifiques pour étudier une ville qui nage, c'est-à-dire une ville qui est capable de se déplacer et de s'équilibrer sur le plan vertical grâce à un mouvement tentaculaire qui viendrait transformer l'énergie cinétique des océans en électricité, rendant ainsi cette ville complètement autosuffisante en énergie. Un autre exemple de ville flottante que l'on a développée, que l'on développe toujours avec l'université de Singapour cette fois-ci, est le projet Lilipad. On connaît depuis maintenant quelques mois la crise des réfugiés de guerre. On sait que d'ici 2050, nous aurons 250 millions de réfugiés climatiques à abriter. Et donc, plutôt que de construire sur pieux, comme les plateformes pétrolières, plutôt que de construire sur polders, c'est-à-dire sur des amoncellements de sable comme à Abu Dhabi ou en Hollande, on propose la construction d'habitats pour réfugiés environnementaux qui soient flottants, nomades, qui puissent se déplacer sur les océans suivant les courants du Gulf Stream ou du Labrador. Donc ces projets de science-fiction, en fait, nous, on essaye vraiment de dresser des ponts entre la recherche fondamentale en laboratoire et la recherche appliquée en industrie. Le but, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est à l'aube de la COP21, du sommet mondial pour le climat que va accueillir Paris, ici, à la fin du mois de novembre. Et l'enjeu est de dire que, à contrario de tous les scénarios apocalyptiques qu'on a développés en science-fiction depuis plusieurs décennies, on pourrait imaginer des scénarios où l'homme, finalement, retrouve une symbiose avec la nature, avec l'environnement, où finalement, les bâtiments deviennent des jardins habités, qui sont justement capables d'être notamment autonomes en énergie en améliorant la qualité de vie des habitants grâce aux technologies de l'information et de la communication, grâce à l'ingénierie de la nature, au biomimétisme, pour finalement inventer donc ces villes intelligentes qui, d'ici 2050, où on sera 9 milliards d'habitants sur Terre, vont pouvoir finalement mettre en place des scénarios de résilience climatique. Donc juste cet après-midi, j'expliquerai également avec Hugo tout un projet alliant justement la science et la fiction qu'on a développé avec la mairie de Paris pour imaginer comment la ville allait pouvoir assurer sa transition énergétique d'ici 2050.
Merci. Merci. Moi, j'aurais tendance, après avoir vu ces images, à dire ça, c'est de la science-fiction. Mais sur le côté émerveillé de l'exclamation en question, tellement j'ai trouvé ça beau et intéressant sur le fond. Chers amis, vos réactions à cette projection ou à la question qui nous a été posée ? Hugo, peut-être, je vois.
Alors, bonjour. Vas-y. À tous. Merci Jean-Jacques pour piloter cette table ronde, cette première table ronde du festival. Merci à tous d'être là, évidemment. Merci à Vincent en particulier de nous avoir fait partager ces magnifiques projets. Est-ce que c'est de la science-fiction ? Pour moi, non. On est déjà dans un frémissement de la réalité. On est déjà dans des choses qui sont complètement en cours de réalisation. D'ailleurs, il ne l'a pas dit par modestie, mais certains de ces projets sont déjà plus qu'en cours de réalisation, presque en cours de finition pour certains. Et donc, on est vraiment dans la réalité. Donc, c'est comme si, d'une certaine manière, aujourd'hui, on était confronté à quelque chose, nous, les auteurs de science-fiction, les créateurs de science-fiction, les inventeurs de mondes imaginaires. C'est comme si, aujourd'hui, la réalité nous dépassait. Et que les possibilités inscrites dans notre réalité, dans les changements de notre réalité, dépassaient les rêves de la science-fiction. Vincent vient de le dire, les cauchemars de la science-fiction ne sont pas devant nous, ils sont derrière nous. C'est comme si finalement la science-fiction risquait un petit peu d'être frappée d'obsolescence. Alors dire ça aujourd'hui à l'ouverture d'un festival de science-fiction, c'est quand même un peu stressant effectivement. Mais il faut se poser la question, je pense, en tant que passionné, en tant qu'auteur, en tant que lecteur, en tant que toute personne qui partage ces univers de la science-fiction. qu'est-ce que la science-fiction nous apporte et qu'est-ce qu'elle nous a apporté. Et quand j'ai proposé cette idée, pour moi, mais ça c'est la science-fiction, c'était d'abord une manière avant tout de dire, écoutez, arrêtons de séparer la science-fiction de la réalité. Arrêtons de faire comme si on savait très bien que la science-fiction c'est quelque chose qui n'arrivera jamais et que la réalité c'est quelque chose qui n'a pas aucun pont commun, aucune passerelle avec la science-fiction. Tout au contraire, la science-fiction nous permet à chaque pas, à chaque génération presque, j'ai envie de dire, de nous préparer au changement de la réalité. Elle n'est pas prophétique, elle ne l'a jamais été. Pour moi, la science-fiction n'explore pas le futur, elle explore plutôt, Xavier le dira beaucoup mieux que moi tout à l'heure, nos inquiétudes, nos angoisses par rapport au futur, mais en nous donnant l'occasion de les voir, en nous donnant l'occasion de les animer, elles nous permettent de mieux nous préparer au présent qui est en train d'advenir, au futur qui est en train d'advenir. Et pour moi, au fond, la science-fiction, elle a tout à voir avec le réel. Je dirais qu'elle est une chute dans la réalité. La science-fiction, elle s'adresse d'abord et avant tout aux citoyens qui veulent s'emparer des possibilités de la réalité, et elle nous montre que cette réalité est toujours changeante, toujours en mouvement. Et c'est vraiment ça pour moi, c'est pour ça que j'écris de la science-fiction. C'est pour ça que je suis délégué artistique de ce festival. C'est pour bien rappeler à chacun qu'elle est un laboratoire du réel. Elle nous prépare à accepter les changements du monde. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais insister ce matin.
Oui, un petit mot simplement avant de passer la parole à Xavier. Moi, ce que m'inspirent les images qu'on vient de voir, c'est de me dire effectivement, ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la réalité potentielle, mais potentielle pour encore un délai relativement bref. Donc on est déjà quasiment dans le réel. La science-fiction est plus loin. Xavier.
Déjà, je voudrais m'émerveiller des images de Vincent Caillebeau et la phrase qui a suivi disant qu'il ne s'agissait pas simplement de progrès, mais de programme en cours de réalisation. Alors là, c'est merveilleux, ça fait extrêmement du bien. Mais je suis d'accord, hélas, avec les deux autres interventions, c'est que ça n'est pas la science-fiction, et j'aimerais revenir à l'énoncé littéral critique, puisque tu avais distingué la part de merveilleux qu'il y a dans A, c'est la science-fiction, mais la part négative aussi de A, c'est la science-fiction. J'aimerais revenir sur la part négative, moi, c'est celle qui m'intéresse, et pour dire que c'est une analyse extrêmement juste de la science-fiction. Dire A, c'est la science-fiction en en ayant un énoncé négatif, c'est comprendre exactement un sens possible de la science-fiction. Parce que faut savoir à quoi on réserve ce type d'énoncé. Si je dis « Ah, c'est la science-fiction », dans le langage courant, je vais pas parler des théories de Cantor ou du paradoxe de Hilbert ou des ensembles de Russell auxquels je comprends rien. Ça va être, par exemple, retourner dans le temps, ou alors soulever une montagne, ou alors que les impôts baissent, ou alors que mon épouse soit à l'heure alors qu'on est invité à dîner. Et là, je dirais, ah, c'est la science-fiction. Donc c'est cet énoncé, il est valide dans un cadre qui est celui, disons, du quotidien, de l'usage commun. Et là, il est parfaitement juste, puisque on comprend parfaitement que la science ne peut s'accommoder de la fiction. Et que si ça ne relève pas de quelque chose qui peut être validé par la science, alors c'est de la science-fiction, puisque la science n'a rien à faire avec la fiction. Donc en fait, cet énoncé est performant dans le quotidien. Maintenant, quel est le quotidien ? C'est celui d'une science elle-même, et là je parle bien de la science, qui se décline en tant que fiction, dans l'usage courant, la science est trop souvent réduite à des chromos, qui sont des historiettes comme la pomme de Newton ou le chat de Schrödinger, ou qui sont donc des fictions. Et donc, dans tous les cas, on a une double validation de l'usage négatif de l'expression « Ah, c'est de la science-fiction ».
Oui, effectivement, l'usage négatif existe aussi. Sylvie, usage positif, usage négatif ou autre type d'usage ?
Bon, alors moi, je m'émerveille d'abord, comme nous tous, devant ces images extraordinaires qui font rêver. Moi, je dirais bien c'est de la science-fiction parce que je ne suis absolument pas fataliste et je trouve qu'on a peut-être, dans ce qu'ont dit mes petits camarades, il y a quelque chose qui me laisse tout à fait perplexe. Je crois que l'avenir nous surprend toujours. L'avenir est toujours inattendu. rien ne se déroule jamais comme on l'avait examiné, comme on l'avait imaginé, que ce soit à l'échelle humaine ou à l'échelle des sociétés. Donc, après, on peut essayer de rêver à l'avenir. Il y a des gens dont c'est le métier. Ce ne sont pas les auteurs de science-fiction, ce sont les prospectivistes. Même les prospectivistes se trompent parce qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent dans la construction d'une situation qu'on ne peut pas les prendre tous en compte et on ne peut pas savoir quelle importance ils vont avoir les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est de la science-fiction. Pour moi, ça exprime le fait qu'on est face à quelque chose qui fait envie, qui fait rêver, y compris le fait que ta femme soit à l'heure pour aller au restaurant. C'est quelque chose que l'on n'osait pas imaginer, mais on est heureux de pouvoir l'imaginer. Et ça veut dire que, voilà, peut-être de manière improbable, mais peut-être que ça, cela se révélera être la vérité un jour. Il y a une autre expression à laquelle j'aimerais bien comparer, ça c'est de la science-fiction, je pense qu'elle est beaucoup plus péjorative que celle dont nous parlons maintenant, c'est « Ah oui, mais ça c'est un conte de fées ». Un conte de fées, c'est une histoire qui a un happy end, mais auquel on ne croit pas du tout, qui jamais ne se réalisera. Il me semble que c'est dans ce sens-là qu'on l'utilise. La science-fiction, c'est une hypothèse improbable, souhaitable. Je vous entendais parler des prévisions catastrophistes de la SF. C'est pas du tout l'image que j'ai de la science-fiction. La science-fiction, parmi les avenirs qu'elle envisage, certains sont sombres, et les hommes se battent pour essayer d'y faire face. Mais il y en a aussi quand même beaucoup qui sont surprenant et radieux et joyeux et plein de rencontres inattendues et plein de choses surprenantes qu'on a envie de vivre. C'est des aventures très diverses. Donc, des avenirs imprévisibles, surprenants, mais auxquels on a le droit de penser quand même. Donc, on ne va pas s'en priver.
Oui, il n'y a pas que les lendemains qui déchantent. Il y a aussi les lendemains qui chantent, dont on a beaucoup parlé, et en l'occurrence, comme ici, les lendemains qui enchantent. Je crois qu'aussi, c'est un aspect, je crois, que vous avez ressenti, mais que vous n'avez pas dit. Non seulement c'est effectivement construit, intelligent, rationnel, et c'est un but tout à fait précis, mais en plus, c'est beau. C'est ça qui est absolument frappant, c'est que c'est tout à fait magnifique. Xavier, à nouveau.
Moi, j'aurais une question pour Vincent, parce que, justement, donc, on a évoqué toutes les possibilités. Est-ce que la science-fiction est un récit vers un futur radieux ou pas? Est-ce que ça porte sur le réel ici et maintenant? Mais par exemple, quand vous travaillez sur ce type de projet, moi j'ai deux questions qui relèvent de l'imaginaire. La première, c'est est-ce que vous et vos compagnons de recherche êtes nourris d'imaginaire? Et puis aussi, parce que c'est beau, en plus d'être utile, c'est extrêmement beau ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a une part importante de, je dirais, d'architecture, d'esthétique de l'architecture qui a par exemple des fins optimistes ou utopiques? Enfin, quelle est la part d'imaginaire dans l'effectivité d'un projet?
Donc nous, effectivement, ben, on part de l'imaginaire. À la base, moi j'ai une trentaine d'années, donc on m'a toujours dit, oui, on fait partie de la génération sacrifiée, où on a hérité la génération de nos parents, de nos grands-parents qui ont détraqué la planète. Et donc, tiens, on te donne une planète poubelle et maintenant essaye de la rénover, de la réhabiliter. Et moi, en gros, je suis d'origine belge, donc j'ai été fortement imprégné de bande dessinée et de science-fiction. Et j'ai essayé finalement de m'en sortir dans la vie grâce à la science-fiction. Je voulais pas faire des bâtiments traditionnels. Et avec des amis artistes, on a développé justement ce langage imaginaire qu'on a voulu structurer justement en travaillant avec des scientifiques comme Roland ou autres, un peu partout dans le monde, en dessinant des objets volants, des objets flottants, des objets sous-marins qui viennent augmenter la qualité de vie, mais qui soient optimisés par la science. Donc ça, c'est la façon dont on a commencé à travailler. Et par cet imaginaire, on a frappé les esprits. Et de façon, de deux manières, complètement presque schizophrènes. C'est-à-dire que quand on montre nos projets, j'en parlais avec Hugo, par exemple, à des investisseurs, à des municipalités en Europe, on nous dit, c'est la phrase que j'ai du mal à encaisser. Ah ben ça, c'est de la science-fiction. Va jouer dans la cour de l'école. T'es pas architecte. Et donc, j'ai toujours eu difficile à travailler sur mon continent. Et à l'inverse, quand j'ai commencé à exposer dans des expositions universelles, dans des expositions d'art contemporain à l'étranger, tout le monde m'a dit, ça, c'est la prospective. Et donc, cette prospective, cette nouvelle façon de penser, de faire fusionner les sciences avec l'art, de travailler de façon interdisciplinaire, internationale, c'est comme ça qu'on a envie de travailler sur des projets concrétisables. Et donc, il y a beaucoup de scientifiques qui, à l'étranger, qui appellent ça des utopies concrètes, c'est-à-dire des utopies qu'une génération met en place pour les réaliser durant les 30 prochaines années à venir. Et donc, finalement, on a trouvé une résonance ultra forte par rapport à nos travaux, surtout maintenant, à l'aube de la COP21, à l'aube où la planète est détraquée, pour dire que, finalement, l'utopie concrète, la science-fiction est là pour accélérer l'innovation.
Alors, excuse-moi, Hugo, juste une question pour prolonger ce que vous venez de dire. Concrètement, de tous les projets qu'on vient de voir, est-ce qu'il y en a qui sont en cours ou proches de la réalisation ?
Donc, par exemple, on a le projet Lilipad, donc en français qui veut dire la ville nénuphar, qui est la ville qu'on a imaginée pour les réfugiés climatiques. Donc à la base, c'est un projet sociétal qu'on a été présenté à l'ONU, aux États-Unis, au Parlement européen, à Bruxelles ou à Strasbourg, qui est en partie financé par des études de recherche européennes et en partie financé par une opération de crowdfunding, c'est-à-dire avec du don participatif où chacun peut nous permettre d'évoluer. Et donc depuis 2 ans maintenant, on travaille en partenariat avec l'université de Singapour, qui est spécialisée justement dans les structures navales, pour imaginer justement comment on pourrait devenir des mériens et non pas des terriens, et comment on va pouvoir accueillir ces 250 millions de réfugiés climatiques. Ensuite, on a d'autres projets qui aujourd'hui sont en chantier, qui réalisent finalement mon fantasme d'architecte et d'urbaniste. C'est-à-dire que moi, je pars toujours de la métaphore de dire, on a construit des villes, et si aujourd'hui on essayait de transformer ces villes en forêts, comme une forêt amazonienne. Parce que la forêt amazonienne, à l'opposé de notre ville, elle est capable de produire elle-même sa propre énergie, principalement grâce à la photosynthèse, et elle ne produit aucun déchet qui ne soit pas recyclé ou recyclable en boucle vertueuse. Et donc, mon fantasme, c'est de dire, transformons la ville contemporaine en forêt amazonienne pour finalement construire la ville intelligente de demain. Et ça, aujourd'hui, c'est possible. On a des projets de tours qui produisent plus d'énergie qu'elles en consomment, donc qui, par exemple, produisent 200% de l'énergie dont elles ont besoin, et elles redistribuent 100% de la plus-value aux bâtiments voisins. Ainsi, on a des boucles de solidarité énergétique qui se mettent en place sur un projet de 450 000 m² en chantier au Caire ou une tour qui est en cours de finalisation à Taïwan.
Dans un contexte entièrement différent, le nom du monde est forêt, disait Ursula Le Guin. Hugo.
Moi, je voulais juste en fait rebondir, mais on va toujours dans le même sens. Pour moi, ce que tu viens de dire, c'est un paradoxe assez troublant. C'est-à-dire, il vient de vous dire que, en gros, en Europe... Voilà, au sens classique du terme, on va dire, on te reproche de faire de la science-fiction. Partout ailleurs, on parle de prospective. C'est donc qu'il y a des raisons culturelles. Et moi, je trouve extrêmement troublant et paradoxal et un peu déstabilisant que les principaux porteurs d'innovation, les principaux créateurs, ceux qui sont en train de changer concrètement le monde, se sont nourris de la science-fiction, ont lu de la science-fiction, en lisent, ou en tout cas s'inspirent encore de la science-fiction, c'est vrai dans les sciences exactes comme les sciences sociales, c'est vrai dans l'architecture, c'est vrai dans beaucoup, beaucoup de champs d'activité. Et paradoxalement, on est encore dans ce monde-là européen, on va dire, entre guillemets, centré comme ça un petit peu sur sa propre histoire, qui dit finalement, mais non, ça c'est de la science-fiction. Alors, il y a des raisons culturelles, il y a peut-être des raisons philosophiques. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'on arrive à identifier, c'est comment peut-on expliquer que la science-fiction nous a déjà donné un répertoire de possibilités, une habitude à penser l'altérité, à penser les alternances, à penser les autres mondes possibles dont on a parlé à plusieurs reprises, même ici. et en même temps qu'on soit toujours dans cette espèce de réflexion généralisée dans les médias du style « mais non, mais ça c'est de la science-fiction, ha ha ha, ça c'est de la science-fiction ». Moi je voudrais trouver les raisons culturelles. Qu'est-ce qui explique qu'à la fois on soit capable de nourrir un genre dont la fonction sociale principale est de permettre de penser l'altérité et en même temps d'être toujours concentré sur cette idée que non, finalement, c'est de la science-fiction. Pour moi, la science-fiction, elle vient de l'utopie. Et l'utopie, le genre utopique qui émerge à la Renaissance avec Thomas More, etc., on ne va pas refaire l'histoire de l'utopie, c'est un rapport justement entre la ville et la nature. Et c'est la recherche d'une ville vertueuse, d'une ville idéale, d'une ville d'abord parfaite en contrepoint d'un réel imparfait, puis d'une ville programmable. Il y a deux grandes époques dans l'utopie. D'abord l'utopie comme outil critique, et puis l'utopie comme outil programmatique, c'est-à-dire le chemin qui va nous montrer comment on peut changer notre société. Et ça, la science-fiction s'en est emparée dans les deux facettes. C'est-à-dire, lorsqu'elle est négative, c'est un outil critique, pour dire attention, si on continue comme ça, voilà ce qui va nous arriver. Et lorsqu'elle est positive, lorsqu'elle est constructive, comme tu l'as bien rappelé, Sylvie, on est dans le programme. C'est-à-dire, on sait bien que les choses ne vont pas se passer comme ça. On sait bien que ce n'est pas forcément par ces étapes-là qu'on va changer le monde, mais ça nous laisse toujours la possibilité de le changer. Et moi, je suis vraiment saisi par ce paradoxe où la science-fiction entretient notre capacité à changer le monde, et pourtant, aujourd'hui encore, alors qu'elle est très à la mode, que tout le monde parle de science-fiction, que la publicité, tous les champs d'expression s'emparent de la science-fiction, tirent à eux la couverture des possibilités science-fictives, on est encore sur une réflexion qui est toujours « Ah, mais ça, c'est de la science-fiction ». Moi, c'est ça qui me perturbe véritablement.
Deux choses pour répondre à Hugo avant de passer la parole à Sylvie. La première, c'est bizarre, toi qui es un spécialiste de l'utopie, peut-être pourras-tu me répondre tout à l'heure. Pourquoi l'utopie est-elle toujours urbaine et rarement rurale? J'en parle rarement de la campagne idéale, on parle de la ville idéale et pas de la campagne idéale. Deuxième chose, sur quoi t'appuies-tu pour dire qu'un certain nombre de personnalités, de décideurs ont été ou sont soit lecteurs, soit même scripteurs de science-fiction. Il me souvient, si je ne me trompe pas, qu'il y a une bonne vingtaine d'années, sinon plus, les frères Bogdanov, du temps où ils avaient un menton plus fin, avaient fait une enquête auprès de personnalités sur ce thème-là. Lisez-vous de la science-fiction, aimez-vous ça, n'aimez-vous pas ça, et pourquoi? C'était pas inintéressant. Ça serait intéressant de la réactualiser maintenant, pour voir un peu conforter ou pas ce que tu viens de dire sur le sujet. Sylvie?
Oui, moi j'avais envie de... La question que posait Hugo tout à l'heure, est-ce qu'on a des raisons culturelles d'être aussi méfiant vis-à-vis de la science-fiction? J'ai une hypothèse à formuler, et je ne sais pas du tout si je n'ai pas de quoi l'étayer solidement, donc je vous la soumets telle que je l'ai dans la tête. Je pense que la difficulté qu'on a vis-à-vis de la science-fiction vient peut-être plus profondément du rapport très particulier qu'on a en France, il me semble, avec la science. Pour les scientifiques, la science, c'est un terrain d'interrogation où on confronte des hypothèses, où on s'interroge, où rien n'est sûr, où alors les scientifiques disent on n'a que des hypothèses ou des lois réfutables. À tout moment, elles peuvent être mises en cause. Elles doivent être remises en cause, ne serait-ce que pour s'apercevoir qu'elles résistent, mais on n'est jamais sûr qu'une loi scientifique est vraie. Et paradoxalement, à côté de ça, je pense qu'on présente la science au public, dans la société et dans l'enseignement, en particulier aux jeunes, comme quelque chose d'extrêmement dogmatique, définitif. On n'a pas le droit de remettre en question la science. Elle est extrêmement péremptoire. La science a raison et on la définit contre l'imagination et par rapport à l'imagination. Et c'est une absurdité d'envisager la science de cette façon, mais je crois vraiment qu'on a ce rapport-là à la science quand on n'est pas soi-même un chercheur. Je le crois parce que il n'y a qu'à voir la manière dont les journalistes montent en épingle, et c'est les seuls moments d'ailleurs où la science semble les intéresser, les situations un peu extrêmes dans lesquelles on se demande s'il n'y a pas une loi scientifique qui est en train de s'écrouler. Mon Dieu, y aurait-il un atome qui va plus vite que la vitesse de la lumière? Mais c'est une catastrophe. Les scientifiques se seraient-ils tous trompés? Mais à qui pouvons-nous nous fier? Alors que les scientifiques sont beaucoup moins émus par par une expérimentation menée dans des conditions qu'il faudra examiner de près. Et il n'y a pas eu d'émotion dans le monde scientifique comparable à celle que les médias ont essayé de susciter dans le grand public dans cette circonstance. Et on aimerait bien que la science soit le dernier rempart, le bastion de la raison qui n'est pas contestable. C'est une horreur de considérer la science comme ça. Mais alors du coup, oser envisager des hypothèses scientifiques, notre manière de travailler à nous auteurs de science-fiction, elle est très proche de celle des scientifiques. Moi, je suis à la fois un chercheur frustré, mais ce qui m'intéressait dans la recherche, c'était de formuler des hypothèses et la dimension créative qu'elle avait. C'est exactement la manière de travailler des auteurs de science-fiction. C'est le grand public qui a une perception tellement décalée de la science qu'il ne comprend pas à quel point les démarches en fait sont similaires. Je pense que Vincent serait assez d'accord, sans doute, puisqu'il est scientifique lui-même et que la créativité et les hypothèses hardies ne lui semblent sans doute pas incompatibles avec l'approche scientifique.
Voilà, donc je pense effectivement qu'aujourd'hui, l'utopie et la science-fiction, parfois, elle est un peu mal vue parce que dans notre société, où tout doit être parfait, on n'a plus le droit de se tromper. Et le droit de se tromper, c'est-à-dire faire des prototypes qui répondent à une hypothèse, développent une démonstration, une thèse, engendrent toujours une antithèse, engendrent toujours une autre, enfin beaucoup plus de questions que la réponse initiale qu'on a apportée à la question. Et du coup, il faut simplement accepter de pouvoir faire des prototypes qui soient évolutifs. Et aujourd'hui, peut-être qu'en Europe, c'est un peu plus sclérosé, parce que finalement, on n'arrête pas de nous rabâcher qu'on est un carrefour, une conjonction de crises économiques, écologiques et autres. Et donc, on a encore moins le droit de se tromper qu'il y a 10 ans. Mais se tromper, c'est essentiel dans le processus de fabrication, que ce soit dans la fabrication scientifique d'une ville, ou d'une campagne ou d'une nature. Après, juste pour rebondir un peu sur la campagne idéale, c'est vrai que quand on est architecte urbaniste, c'est dans le mot urbaniste, on construit des villes et on n'imagine pas la campagne. Et donc, c'est vrai que maintenant, par exemple en Chine, où il y a un exode rural massif, où il y aura 50 villes en 2020 qui seront plus grandes que Paris, donc des villes de plus de 5 millions d'habitants en Chine, où tout le monde a déserté la campagne, tous les politiques se disent « il faut réenchanter la campagne ». Il faut réoffrir aux habitants le fait de vouloir vivre sur des terrains agricoles. Et donc nous, par exemple, actuellement, on développe un projet d'agroforesterie, où c'est-à-dire, pendant les années 60, on a développé des villes monofonctionnelles. On a fait des quartiers d'affaires, des quartiers de logement, des quartiers de loisirs. Et à la campagne, on a fait la même chose. On a fait des champs de maïs d'un côté, des champs de céréales de l'autre et des forêts. Et du coup, maintenant, on est suspendu à Monsanto et autres, aux insecticides, pesticides, fongicides et autres. Et on s'aperçoit que si on reforme des écosystèmes complets en mélangeant des forêts avec des champs d'agriculture, on pourra passer à une agriculture biologique semi-industrielle, donc offrir du bio à tout le monde. Et donc ça, c'est également des phénomènes qu'on est en train d'étudier actuellement. Et donc il est possible justement de réimaginer également les milieux ruraux.
C'était pas le bon. Un petit mot avant de passer la parole à Xavier, pour réagir sur ce que vient de dire Sylvie. Je suis pas d'avis que la science-fiction repose exclusivement sur des présupposés scientifiques. Je pense qu'elle est plus large que ça. Mais effectivement, ça joue son rôle. En revanche, je suis d'accord avec Sylvie quand elle dit qu'il y a un déséquilibre entre la culture littéraire, entre guillemets, et la culture scientifique en France, qui est absolument scandaleux et absolument tragique d'ailleurs, parce que c'est un des problèmes, je crois, que ça nous pose pour l'avenir. Les journalistes dont tu parlais tout à l'heure, aucun d'entre eux n'oserait dire qu'il ne sait pas un certain nombre de choses en histoire ou en littérature. Tous, ou presque, se vantent de ne rien comprendre à la physique, aux maths en particulier. Alors ça, c'est... Qu'il ne soit pas connaisseur en la matière, ok, mais qu'il ne s'en vante pas, Seigneur Dieu. Xavier.
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'aimerais justement un peu refaire le point à ce niveau de la conversation. C'est que déjà, A, c'est de la science-fiction, est un énoncé qui n'appartient pas au champ de la science-fiction. C'est... Roland Barthes qui disait « on peut dire je suis né, mais on ne peut pas dire je suis mort ». C'est un énoncé qui échappe à la science-fiction. Jamais. Bah, vous voulez créer, les forums n'existent plus, mais du temps des forums, vous vouliez créer un événement avec fâcherie, page qui défilait sur l'écran, vous disiez, et si nous nous lancions dans une définition de qu'est-ce que la science-fiction ? C'est proprement impossible. La science-fiction est incapable de se définir comme telle, ce qui n'est peut-être d'ailleurs pas un défaut. Donc l'énoncé A, c'est la science-fiction, appartient à un champ qui n'est pas la science-fiction. On peut, nous, au sein de la science-fiction, désigner ponctuellement ce qui relève assurément la science-fiction, mais pas désigner le genre comme tel en l'embrassant dans une définition qui soit exhaustive. Et d'autre part, justement, donc, et là je suis d'accord avec tout le monde ici, c'est que cet énoncé est laissé en pâture aux détracteurs de la science-fiction, détracteurs de la science-fiction qui sont juste capables d'accoler le respect théorique qu'ils ont pour la science et le déterminant négatif qu'est la fiction. Mais ils sont eux-mêmes incapables de science. Et donc c'est un énoncé qui est assez étonnant puisqu'il est performatif. On peut parfaitement dire quelque chose en disant péjorativement « Ah, c'est de la science-fiction », mais il est invalidé par le fait que les gens qui tiennent cette vérité sont incapables de la démontrer.
Hugo.
Oui, alors moi je voulais juste rebondir, excellente analyse de Xavier, juste rebondir sur les rapports entre la ville et la nature pour te répondre, qui revient à ajouter des éléments, parce que finalement le débat sur la science-fiction passe pas mal par le filtre des modèles de ville merveilleux que tu nous as montrés, et qui sont le bon support, je pense, pour interroger cette notion-là, cette question-là. Il n'y a pas du tout opposition entre ville et nature dans l'utopie, pas du tout. Dans les origines de l'utopie, Thomas More, l'activité principale de l'utopie de Thomas More, c'est l'agriculture. Et l'utopie de Thomas More repose sur des lois qui sont les lois de la nature, ce qu'il appelle les lois justes de la nature. Donc la ville n'est pas une manière d'échapper à la nature ou à la campagne, c'est une manière de s'inscrire dans la nature. La ville est un élément naturel. La ville est naturelle, nous disait Aristote. D'accord ? La cité est naturelle. Donc les premières utopies qui sont forcément nourries de l'Antiquité, et notamment celle de Thomas More, veulent inscrire la ville dans la nature. Donc il n'y a pas du tout d'opposition. Thomas More inscrit son utopie dans le respect et dans le prolongement, l'expérimentation permanente des lois naturelles, des lois justes de la nature, à tel point que tous les utopiens sont agriculteurs pendant un an ou deux ans, puis ils tournent. Donc de manière à ce que tout citadin soit aussi campagnard, que tout acteur de la cité soit aussi paysan. Donc il n'y a pas du tout d'opposition. Et même chez Francis Bacon, dans la Nouvelle Atlantide, le travail scientifique des Atlantes est d'abord un travail sur les lois de la nature et sur les possibilités du réel, de la matière première, de la réalité. Donc il n'y a pas... C'est plus tard, après, c'est plutôt avec les utopies programmatiques du 19e siècle. Mais encore là, même si on regarde le phalanstère de Fourier, par exemple, on est encore de nouveau avec la nature autour de la ville ou en partenariat avec la ville. Donc il faut se libérer de cette vision un peu stéréotypée que nos villes ne sont pas naturelles. Il faut arrêter ça. Et je pense que le travail que fait Vincent, ça n'est pas de créer des villes encore plus artificielles, c'est au contraire de créer des villes qui se renaturent. Et je pense que ça, c'est extrêmement sain. Et l'utopie et la science-fiction l'ont montré. Ont montré que c'était possible. Tu citais le nom du monde des forêts, mais il y a plein d'autres exemples d'utopie ou de science-fiction positive qui montrent cet aspect-là des choses. Voilà, c'était juste pour souligner. Et quant aux décideurs qui se réclament de la science-fiction, alors bon, j'ai des tas d'exemples, mais c'est surtout la nouvelle génération qui disent toujours « Ah ben moi, je lisais de la science-fiction. Ah ben moi, la bibliothèque de mon père contenait des livres de science-fiction. J'ai lu ci, j'ai lu ça. » Ou qui citent la science-fiction, parfois à tort et à travers, mais qui vont citer des grands classiques de la science-fiction comme Fahrenheit 451 ou d'autres, et qui vont s'emparer de ce champ culturel-là. Et c'est ça qui est encore une révélation, c'est la nouvelle génération de décideurs, la nouvelle génération d'acteurs politiques, que ce soit dans le milieu du privé ou du public, ne cesse d'avoir à la bouche des références science-fictives. C'est devenu très très commun.
Deux mots. Oui, ce n'est pas à la nature que je faisais allusion, c'est simplement à la permanence de l'existence d'une ville dans toutes les utopies. Le nom du monde des forêts, autant que je me souviens, il n'y a pas une ville, c'est que la forêt, complètement. Vincent.
Non, je voulais juste réagir sur ce que disait Hugo. C'est vrai qu'on parle souvent de science-fiction, ça fait partie de ma culture. Et ils ajoutent tout de suite après, quand j'étais petit,
oui. Et oui.
Chez mes parents.
Mais ça marque quand même.
J'ai arrêté depuis longtemps. Mais non, mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'exprimer le fait qu'à un moment donné, ils sont devenus grands et donc ils ont arrêté de lire de la science-fiction. Moi c'est ça qui me désole.
Mais est-ce que c'est vrai qu'ils ont arrêté?
Malheureusement.
Ou est-ce que c'est une façade qui se donne?
Malheureusement, mes collègues scientifiques sont rarement des gens qui lisent beaucoup, ils lisent très peu de romans. Ils ont tellement de lectures professionnelles, utiles et savantes à faire qu'en général, ils ont complètement arrêté de lire des romans ou des nouvelles ou n'importe quel récit de fiction.
Vincent, donc.
Oui, donc dans ce que tu viens de dire, pour moi, c'est essentiel. C'est vrai que quand on est adulte, c'est hyper fertilisant pour l'esprit d'être fan de science-fiction parce que justement, ça permet de s'émouvoir, ça permet de retrouver son esprit d'enfant, ça permet du coup de devenir un peu spongieux par rapport à plein de nouvelles idées, plein de nouvelles innovations qui sont en train d'être en émulation dans les laboratoires du monde entier. Justement, aujourd'hui, où on est dans un monde où tout s'accélère, où l'information est disponible à tous, et donc finalement où la transdisciplinarité qui permet d'accélérer l'innovation est au service du plus grand nombre. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans ce que tu disais avec Thomas More, c'est qu'aujourd'hui on est en train d'imaginer des phénomènes d'agriculture urbaine où on ne vient plus contraster la ville et la campagne et où les deux viennent fusionner pour véritablement former un écosystème qui produit sa propre énergie, qui recycle ses propres déchets en ressources naturelles à l'infini. Et donc par exemple, c'est la thématique des fermes urbaines verticales. Pour la ville de New York, on a développé un projet qui s'appelle Dragonfly, le projet Libellule. En fait, c'est une tour de bureaux et de logements, deux tours classiques qui sont siamoises et qui viennent intégrer des champs d'agriculture, des vergers communautaires et des potagers suspendus dans le ciel les uns sur les autres. Le but, c'est quoi? C'est de se dire simplement qu'on va venir rapatrier les lieux de production alimentaire directement dans les lieux de consommation. Ainsi, on n'a plus besoin de transport fluvial, routier ou aérien pour transporter la nourriture. Et dans le mouvement des locavores, dans le mouvement des AMAP, on retrouve justement cette symbiose avec la nature où chaque citoyen devient agriculteur de sa propre alimentation. Alors quand je vous raconte ça, pour vous, c'est peut-être de l'utopie, mais il y a déjà des fermes verticales qui sont construites au Canada, qui sont construites à Hong Kong, qui sont construites à Singapour. Je pense même qu'il y a un projet de ferme verticale ici à Nantes pour la réhabilitation de certains toits industriels qui seraient transformés en jardins maraîchers communautaires. Et ces jardins maraîchers créent plein de déchets organiques et ces déchets organiques créent un réseau de chaleur et un réseau d'électricité qui sont réinjectés dans les bâtiments autour. Ainsi, finalement, l'architecture contemporaine aujourd'hui, elle peut se débrancher, se dépluguer d'EDF, GDF, Suez et devenir complètement autonome en énergie comme un être vivant.
Je vais vous passer la parole peut-être une dernière fois, car le temps passe, et avant peut-être de passer la parole à la salle si elle a des questions à poser. Donc Hugo, éventuellement un d'entre vous.
Alors, comme c'est la dernière fois que je prends la parole, je vais essayer d'être rapide et de le dire vite. Mais je pense qu'on a parlé d'inquiétude, mais on n'en a pas parlé. Mais je pense qu'il y a un autre thème qui est intéressant, c'est l'insouciance. Vous savez, quand on est petit, les adultes nous disent toujours « vous êtes insouciant ». Moi, je me rappelle, mon grand-père, il me disait toujours « ah, tu as de la chance, tu es dans l'insouciance, donc tu n'as pas de soucis ». Et la science-fiction, bien souvent, elle participe de l'insouciance, elle participe de l'inquiétude, mais aussi de l'insouciance, c'est-à-dire du fait que ben, je me divertis, je m'amuse. Et c'est comme si, adulte, on n'avait plus le droit de se divertir et de s'amuser avec des questions graves. Or, c'est précisément les questions graves avec lesquelles il faut jouer et avec lesquelles il faut s'amuser, au risque d'aller jusqu'à l'insouciance, et c'est ce que fait la science-fiction. Moi, je voudrais citer juste une phrase que tous mes camarades ici connaissent bien, probablement dans le public aussi, mais qui est une phrase de Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes et du professeur Challenger, très grand auteur et qui a travaillé, qui a vraiment livré à la fois une œuvre fabuleuse et en même temps très proche de la science-fiction. Il disait toujours « j'aurais réussi, en somme, si j'amuse en philosophant l'enfant qui n'est qu'un petit homme et l'homme qui n'est qu'un grand enfant. » Et il dit « si j'amuse en philosophant, et c'est ça la clé, je pense, c'est qu'on a le droit de s'amuser avec des questions graves. Et c'est ce que nous propose de faire la science-fiction. Vous pouvez le faire à moindre effort, puisque vous êtes dans l'imaginaire, vous êtes dans un monde qui n'existe pas, donc on peut se faire peur, on peut s'inquiéter, on peut être insouciant. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on réapprenne. Voilà, moi, c'est vraiment ça que je voulais dire.
Merci, Hugo. Quelqu'un d'autre? Sylvie,
Moi, je voulais juste te dire que ce que vient de dire Hugo est tellement beau que je veux rien dire après. Mais c'était magnifique.
C'est pas moi, c'est Conan Doyle. Moi, j'ai rien dit.
La citation de Conan Doyle et tout ce que tu as mis autour. Bravo et merci.
Xavier, un dernier mot ou pas?
Après Hugo, c'est difficile. Simplement, oui, on peut réconcilier tout. C'est-à-dire que je me souviens de mes lectures d'enfant. Chronologiquement, bien sûr, c'est enfant que j'ai découvert la science-fiction et qu'elle générait effectivement l'inquiétude, mais qui était une bonne inquiétude, qui était de bousculer le réel réduit, simple, qui suit l'enfance, qui était d'ouvrir des portes formidables, de générer l'étonnement que personnellement j'ai retrouvé uniquement dans la philosophie, qui est d'ailleurs parfaitement conciliable avec la science-fiction.
Merci. Y a-t-il des questions dans la salle ou des remarques de l'un ou l'une d'entre vous? Peut-être que d'ailleurs, pendant que la salle s'exprime, on pourrait repasser le diaporama qu'on a vu en début de table ronde, s'il vous plaît. Questions, remarques, contestations, critiques. Voilà, le micro arrive.
Bonjour. Est-ce que quand on vous dit c'est de la science-fiction, pour certains des décideurs, c'est pas aussi parce que ces projets-là sont coûteux? Et les financer, il n'y aura pas forcément de retour sur investissement. C'est prendre soin de l'avenir de l'humanité, de la population mondiale, mais ça ne rapportera pas forcément à ceux qui vont le financer.
Oui, mais c'est vous avez raison. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'employer l'argument « c'est trop cher », où ça rapporte rien, l'argument monsieur, c'est de la science-fiction, ce qui est quand même un détour curieux. Vincent, peut-être.
Donc là, c'est le nerf de la guerre, hein. Donc surtout en Europe. Donc c'est vrai que maintenant, moi, on peut dire que je fais de la recherche, la prospective de la science-fiction, je m'en fous un peu, en architecture. Il faut savoir qu'il y a des juristes et des économistes qui font aussi de la science-fiction économique. Et donc aujourd'hui, moi, par exemple, tous les projets que je dessine, ils coûtent 30% en plus qu'un projet standard, comme par exemple ce palais des congrès, qui est hyper énergivore, qui est obligé d'être chauffé, éclairé artificiellement en permanence. Mes projets, ils produisent directement les énergies dont ils ont besoin, donc ça coûte plus cher. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce qu'on a développé avec la mairie de Paris, c'est faire des plans de financement qui ne soient plus à court terme, mais à moyen terme, pour que les coûts de construction des bâtiments ne soient pas simplement calculés sur le coût à la livraison, mais sur le coût à l'exploitation. C'est-à-dire que les 30% de plus-value initiale soient impactés sur une période de 10 ans d'exploitation où on fait 100 à 150% d'économie. Par exemple, pour la ville de Paris, on a développé le concept de copropriété à économie positive. Une copropriété économique positive, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, et à partir de 2020, parce que ça va être la nouvelle réglementation européenne, vous allez pouvoir acheter un appartement dans un bloc, dans un immeuble où il y a 20 appartements, et ces 20 appartements produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. L'énergie que vous consommez en plus, vous la revendez au Palais des Congrès qui est ici, qui est un vieux bâtiment maintenant, et qui, du coup, va établir ce concept de solidarité énergétique. Et les habitants de cette copropriété énergie positive vont pouvoir gagner de l'argent grâce à leur appartement et grâce à l'investissement initial qu'ils y ont mis dans le prix à l'achat. Et donc, finalement, la fiction, c'est aussi ça. C'est inventer des nouveaux scénarios prospectifs, essayer de faire du beau parce qu'on est ici pour justement profiter de la beauté du monde, et essayer de mettre en place finalement des logiques économiques viables à long terme. Car aujourd'hui, on ne peut pas nous demander à tous, notamment nous qui faisons la ville, d'imaginer une ville durable, une ville à long terme, avec une politique à court terme. Et donc aujourd'hui, les politiques sont en train finalement de se retourner vers les scientifiques, vers les prospectivistes pour imaginer la ville du futur. Et c'est notamment ce qu'on a fait avec le projet Paris 2050, où on a inventé finalement un Paris post-carbone, post-fossile, post-nucléaire, où 200 ans après qu'Haussmann ait rasé 70% de l'île de la Cité, on imagine que Paris doit se reformater pour faire en sorte que finalement son écosystème respecte les générations futures.
Autre question, peut-être dernière question, interrogation, critique, remarque, oui là.
Hop. C'est une remarque ?
Oui.
Je pense qu'on devrait arrêter d'utiliser cette expression, c'est de la science-fiction. Parce qu'on est arrivé à une certaine époque où est-ce que, en fait, on utilisait cette expression à l'époque où est-ce qu'on projetait dans nos têtes un futur. Et ce futur est en train d'arriver, en fait. Il est tout proche de nous. Donc, je pense qu'on devrait arrêter de dire c'est de la science-fiction et se dire, bah, c'est bientôt réel. Parce que toutes les images que je vois ici et qui sont très, très réalistes, bah, c'est peut-être des images qu'on se disait il y a quelques années, ah, bah, c'est de la science-fiction, c'est pas vrai. L'air de se moquer un peu en disant, bah, ça n'aura jamais lieu. Il faut juste regarder certaines technologies maintenant ou certaines choses qui se font. Et on se rend compte qu'en fait, on est à l'ère où est-ce que justement on se projetait il y a quelques années. On devrait arrêter d'utiliser cette expression-là, c'est de la science-fiction, en critiquant, parce que ce n'est plus de la science-fiction. C'est le réel, c'est le présent presque, et c'est le futur proche et l'avenir qui est tout près en fait.
Pour les images qu'on est en train de voir en ce moment, oui, c'est tout à fait vrai. Mais si je me retourne, que je vois les images ici de Manchu... De l'exposition qui est là, ça reste encore tout à fait de la science-fiction, parce que ça n'en est pas du tout, pour l'essentiel en tout cas, au niveau de potentialité où en sont celles-là. Autre point de vue. Une dernière question, une dernière remarque, une dernière critique, oui, là-bas au fond.
Bonjour.
Bonjour.
Quand on regarde Bonjour. Tous les bâtiments, on voit, c'est des très jolis bâtiments, on voit des courbes, des hexagones, et en même temps, c'est des bâtiments efficaces énergétiquement. Du coup, j'aurais aimé savoir si, quand vous dessinez vos bâtiments, il y a un côté juste purement beauté, purement design, ou alors le design et l'efficacité sont complémentaires, ou enfin, comment équilibrez-vous les choses ?
Donc nous, on s'est un peu inconsciemment spécialisé dans ce qu'on appelle le biomimétisme. Donc le biomimétisme, ça regroupe le biomorphisme qui s'inspire des formes de la nature, comme par exemple l'aigle des steppes qui remonte l'extrémité de ses ailes pour augmenter sa sustentation dans le ciel. Et ça, à savoir que les Airbus maintenant sont en train de, les nouveaux Airbus sont en train d'imiter le retroussement des ailes pour consommer moins de pétrole. Et donc finalement en architecture on fait la même chose, on s'inspire de la structure des feuilles de nénuphar, on s'inspire de la structure des ailes de libellule, on s'inspire de la structure microperlée des peaux de requin qu'on réintègre dans les coques en aluminium de nos villes flottantes pour en fait économiser l'énergie et économiser les matières premières, à savoir finalement d'imiter les processus naturels qui font en sorte que la nature utilise toujours le minimum de matériaux, elle ajuste toujours la forme à la fonction. Et donc comme le disait Roland dans son exposé sur Interstellar, la forme n'est que la solidification d'une intelligence de l'ingénierie de la nature. Et donc c'est ce qu'on essaye d'exprimer par la standardisation, la paramétrisation. Et aujourd'hui, finalement, la grande avancée technologique, c'est qu'on arrive à travailler avec des nouveaux logiciels, les logiciels qui ont permis notamment d'inventer les animaux du futur qui sont exposés aussi, qui nous permettent de pragmatiser les coûts et de dire, ben voilà, ici vous avez une double vague corallienne, mais en fait, elle est générée par la répétition 500 fois dans l'espace, d'un même module, comme si vous jouez au Lego ou avec des caplas, et que grâce à cette ingénierie, vous pouvez finalement développer aussi une architecture hyper prospective pour les gens qui sont touchés par des catastrophes naturelles, qui n'ont pas spécialement beaucoup d'argent. Et donc, ce n'est pas toujours lié à l'économie, la prospective, l'innovation, et finalement le fait d'inventer l'habitat du futur.
Bien. Eh bien, merci Vincent, merci Hugo, merci Sylvie et Xavier. Et je pense que vous aurez l'occasion, je crois, cet après-midi, de revoir encore le travail de Vincent Caillebout. Merci à tous.
Merci.